dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson, nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Voilà, vivre les confinements loin de la famille est une situation dans laquelle se trouvent certaines personnes. Et pour une raison ou une autre, l'état d'urgence sanitaire les a surprises dans une autre province ou dans une autre ville du pays. Alors ces personnes sont contraintes de passer ces moments difficiles de Covid-19 loin de leurs proches et de leur lieu d'habitation. Et avec le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, l'inquiétude peut les gagner. Et au finish, c'est le stress. Alors, comment gérer ce stress lorsqu'on est loin, lorsqu'on vit les confinements loin de sa famille? Je le disais, nous aurons beaucoup d'invités pour intervenir au long de pendant ce magazine. Et nous avons déjà en ligne Gabriel Kissala. Il est... Je retourne rapidement sa fonction. Voilà, Gabriel Kissala, le directeur général du service central d'éducation à la ville, est déjà en ligne. Monsieur Gabriel Kissala, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Marcel.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder cette question sur comment vivre loin de sa famille en période de confinement. Et vous le savez, il y a des personnes, compte tenu de la situation actuelle avec l'état d'urgence sanitaire, qui étaient, pour une raison ou une autre, loin de leur lieu d'habitation, soit dans une ville ou une autre province du pays. Et voilà, ces personnes se retrouvent là, en confinement, ils ne savent pas rejoindre leur famille. Alors, d'emblée, comment on peut vivre cette situation lorsqu'on sait qu'avec les Covid-19, avec tout ce qui a été décrété comme mesure, on ne sait pas se déplacer, il n'y a pas de moyen de transport et puis et on est loin de sa famille.
Ah oui, merci pour la question. C'est une situation difficile. Dire d'emblée comme ça qu'il y a une solution magique posée à cette situation particulière, et ce serait faux. Il s'agit d'un confinement extra-familial, donc quelqu'un qui est loin de sa famille, de son époux, de ses enfants et peut-être des siens, il est contraint de vivre dans ces conditions-là, et je crois que le stress, en pareille circonstance, ne peut que être présent et peut-être même constant. Pourquoi? C'est parce que quand on est dans une situation comme ça, il y a d'abord des questions qu'on se pose.
Oui.
La première, qui est naturelle, est mais peut-être cette situation, jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Hein? On va se demander, mais et si ça continue à durer comme ça, aurais-je des ressources pour tenir? Hein? En plus, on va se demander, dans les cas qui nous concernent, la situation du coronavirus qui nous met en confinement extra-familial. Et si j'étais infecté là où je suis? Et puis, qu'est-ce que je peux penser de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, des miens qui sont restés là où ils sont, loin de moi? Donc, toutes ces questions, on va se les poser tout naturellement. Et ça ne peut pas permettre à quelqu'un qui est confiné, donc dans une situation de confinement extra-familial, d'être à l'aise. C'est tout à fait normal. Donc, il ne peut que, cette personne ne peut être que stressée. Est-ce qu'il y a une solution magique à cela? Je ne pense pas. Mais, dans tous les cas,
oui.
Je crois que la première chose à faire, c'est de rester positif. Avoir confiance en soi. Rester positif, avoir confiance en soi, sous-entend dans cette circonstance particulière, qu'il faut considérer que pour toute chose, il y a toujours un début et une fin. Nous sommes en situation de confinement, et là, il s'agit d'un confinement extra-familial, on est en dehors de chez soi. Eh bien, elle a commencé cette situation, elle finira un jour par s'arrêter, donc il y aura toujours une solution. Être positif, ça c'est très important. Deuxièmement, je pense que en pareille circonstance, il faudra, pour essayer un peu de renforcer cette confiance en soi, il faudra se faire identifier au niveau local, c'est-à-dire dans le milieu où l'on est. Si on est dans une province autre que là où on habite, si on est dans un pays autre que là où on habite, il faudra d'abord qu'on se fasse identifier, c'est-à-dire que les autorités locales du milieu doivent savoir qu'il y a un monsieur tel qui existe, il faut les contacter. Il faudra qu'on soit localisé, que l'on sache aussi ces messieurs ou ces dames se trouvent où. C'est important parce que les mesures qui seront prises pour éviter la propagation de la pandémie ou de l'accentuation des cas d'infection, toutes ces mesures ne pourront parvenir à une personne à pareille circonstance que si elle est localisée, si elle est identifiée. Et s'il y a des dispositions, prenons mon plan humanitaire, je préfère qu'on vienne en aide aux personnes confinées et qui sont en situation extra-familiale. Ces dispositions ne peuvent parvenir sur la personne, avoir de l'effet sur la personne, que si quand celle-ci est identifiée, répertoriée. Et puis, un autre élément que je peux ajouter à tout cela, parce que tout cela assure, quand on sait qu'on est identifié dans les milieux où on est, les autorités locales savent qu'il y a quand même quelqu'un qui n'habite pas ici, mais qui est contraint, confiné en situation extra-familiale, on sait que s'il y a une mesure prise, on ne l'oubliera pas. Et encore quelque chose à faire, très important, c'est la communication. Quelqu'un qui est en situation de confinement extra-familial doit tout faire pour garder contact d'abord avec les siens. Quand je dis les siens, les premiers, c'est sa famille. Je vois son épouse, ses enfants, s'il est marié ou les siens. Parce que le fait de communiquer déjà, d'avoir la possibilité d'échanger de nouvelles avec les siens, évite qu'on soit tout le temps, qu'on se sente en état d'isolement constant, et qu'on gère, qu'on partage un peu ses soucis, qu'on partage un peu ses émotions.
Alors, Monsieur Gabriel, vous avez dit, il faut être positif, il faut être patient, il faut se dire que cette situation finira par passer, et il faut garder contact avec la famille, mais vous avez insisté sur un aspect qui a retenu mon attention, vous avez parlé de ressources financières. Lorsqu'on est à bout de ressources, là où on se trouve en confinement, loin de sa famille, et également la famille, là où elle se trouve, elle est dans une situation financière très difficile, et comment on peut gérer tout cela? Là, on a beau être patient, positif, mais c'est pas facile.
C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais dans tous les cas, puisqu'on est contraint, on est en dehors de chez soi, il faudra contacter les autorités locales. Je ne dis pas que c'est vraiment la solution unique.
Oui.
Et j'insiste sur ça, pourquoi? Parce que souvent, il y a des fois qu'on se retrouve, il y a des gens qui voyagent par des voies non indiquées, et qui arrive dans un milieu, dans une autre province ou dans un autre pays, sans être identifié. Donc, se présente là comme un clandestin. Mais si on est dans une situation comme celle-là, je pense que le stress sera encore plus difficile à vivre. Parce qu'on n'est pas identifié, on vit comme un clandestin, comme un intrus. Et s'il y a des mesures, on ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes supposé ne pas être connu dans les milieux. Alors, mais si on est connu, on a voyagé dans des conditions normales, on a eu des documents, l'autorisation de sortie, on s'assure qu'on se retrouve dans ces milieux pour un motif ou des motifs qui sont connus. Donc, on ne peut pas s'empêcher parce qu'on est contraint, on n'a pas de ressources, il n'y a pas autre chose à faire que de se présenter aux autorités locales parce qu'elles ont les devoirs quand même de vous venir en aide. Sinon, ce serait un cas d'assistance à une personne, non-assistance à une personne en danger. Parce qu'on n'est pas là parce qu'on a voulu y être, mais on est contraint d'y rester parce que les circonstances sont là. C'est ça que je voulais dire.
Voilà, Monsieur Gabriel, on va poursuivre avec vous. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Jérémy qui nous appelle de Lubumbashi et Kachai qui est à Kanyoka. Nous parlons aujourd'hui de comment vivre loin de la famille en période de confinement, comment gérer le stress. Si vous venez de nous joindre sur la fréquence de la paix, voilà les sujets dans ce nouveau numéro du magazine Okapi Service. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, composez les 081 890 63 94.
Radio Okapi.
À Walikale, sur 104.9 FM.
Okapi.
Jérémy nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bon retour parce que ça fait longtemps. Merci beaucoup. je pense que le sujet il est pertinent. Je pense qu'à ce stade, parce que vous savez que personne n'a pas été... Donc c'est un problème qui arrive arbitrairement, dont la gestion semble difficile à maîtriser. Vous imaginez, vous êtes dans un coin X éloigné de votre pays et vous avez laissé votre famille loin de vous. Vous savez, pour arriver même chez vous, il y a des paramètres. Il faut être en quarantaine pour pouvoir relier votre famille. Tout ça, ce sont des préalables qu'on devait prévoir avant. Ça veut dire que c'est maintenant là que chacun, donc dans sa conscience, doit savoir que lorsque on effectue un voyage, on doit connaître qu'il y a des impératifs qui peuvent arriver arbitrairement et alors il faut que l'on assume tout ce qui arrive. C'est là que nous en interpellons aussi ceux-là qui se déplacent donc clandestinement sans que l'État congolais en soit saisi. Bon, vous savez, quand vous sortez comme ça, et là, il faut que maintenant, lorsque vous rentrez dans votre pays, même ceux-là qui sont commis, donc c'est-à-dire que ce soit à l'aéroport ou n'importe où, doivent souvent avoir un œil regardant pour voir qui rentre. Vous savez qu'il y a des conséquences, et surtout des retombées néfastes qui arrivent. Et vous savez, c'est comme ici à Lubumbashi, le monsieur qui a transité de là qu'il venait, de Kenya, pour atteindre Lubumbashi, mais je me dis comment il est arrivé ici à Lubumbashi. Il est parti, on ne sait pas, dans des conditions irrégulières ou régulières, tout ça, nous n'en savons rien. Mais il rentre, il affecte maintenant, aujourd'hui, on parle des cas ici à Lubumbashi. Ça, ce sont des préalables qu'il faut prévoir. Et alors, il y en a même qui ont perdu leur emploi, tout simplement parce qu'ils ont perdu assez de temps là où ils sont partis, soit dans une activité quelconque, en étant en vacances, en étant en congé, maintenant, il a perdu le temps qu'il fallait pour rentrer.
Voilà, Jérémy, vous avez parlé de ces messieurs qui a su s'étirer d'affaires, hein, vous avez le dit, vous savez pas comment il a fait pour rentrer, du moins il est rentré. Alors, vous avez une question à poser à notre invité.
Tout à fait. Bon, je voudrais poser aussi la question, parce que avant que je me pose la question, je voudrais dire, le stress, la gestion n'est pas seulement quand on est éloigné, même ici sur place. Je peux vous dire, il y a un cas, avant que je me pose la question,
rapidement, allez-y rapidement.
Qui travaillent dans une même entreprise, les uns sont peut-être à la TMB et les autres dans une banque X, mais il se fait qu'une banque a géré l'argent des gens sans qu'on leur donne. Donc ça, tout ça, ça crée du stress, même si on n'est pas éloigné, sur place, on peut être stressé pour n'avoir pas eu son salaire et pourtant c'était versé en banque, mais la banque n'a pas su gérer ce problème. La question que je pose maintenant à l'invité,
oui.
Qu'est-ce que l'État préconise pour tous ces gens-là qui traîneraient, donc qui sont éloignés de leur pays, mais qui sont réguliers avec tous leurs documents? Et alors, qu'est-ce que l'État préconise pour tous ces gens-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ces gens-là ont laissé leur famille. Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement au regard de tout ce qui contourne autour de cette pandémie? Est-ce que l'État a eu à suivre de plus près pour voir les messieurs se déplacer, soit en mission de service? Est-ce que l'État congolais a eu à suivre leur famille? On a connu des cas de professeurs qui ont traîné quelque part, mais ils n'ont pas relié et ils n'ont pas relié leur famille. Qu'est-ce que l'État au moins a pris comme mesure d'accompagnement, n'est-ce pas, pour pallier tous ces problèmes qui du reste semblent un peu au jour d'aujourd'hui bloqués, hein, les gens de toutes les façons.
Voilà, Jérémy, merci hein, de votre contribution et laissez-moi vous dire que désolé, notre invité hein, n'est pas quelqu'un de service public de l'État, donc il n'est pas habilité hein, à répondre à cette question, mais il pourra peut-être donner quelques pistes de solutions. Merci à Jérémy d'avoir appelé de Lubumbashi. Kachai nous appelle de Kanyoka. Bonjour Kachai.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour à l'invité. Bon retour sur le plateau Monsieur Marcel.
Merci, on vous écoute, votre question.
Ok, merci beaucoup Monsieur Marcel. Vraiment, la question est bête, la conscience de beaucoup de Congolais, surtout ceux qui se retrouvent dans le milieu autre que leur milieu habituel de vie. Je connais certains professeurs qui étaient venus ici à Kananga pour enseigner. Alors, quand ils sont venus, ils ont commencé les enseignements. Monsieur Martial, par la suite, quand on a décrété les mesures, ils étaient bloqués ici et ils ne savaient pas retourner là où ils venaient. Et tellement qu'ils n'ont pas d'autres distractions, parce que la première distraction d'un professeur, c'est lorsqu'il enseigne, il est devant les étudiants et puis il se sent un peu à l'aise. Maintenant, il n'y a pas de ciné, il n'y a pas de... Donc, tout ça, il est bloqué, il ne sait pas quoi faire. Ses enfants le réclament, alors il ne sait pas les rejoindre. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas de... Il y a certains refoulés de l'Angola qui sont sortis du côté Kamako. Et les autres ont échappé au contrôle normal des services sanitaires. Maintenant, les membres de leur famille ici au Congo ne savent pas le recevoir par peur d'être contaminés du virus, du coronavirus. Ils disent que bon, on ne sait pas d'où vous venez, si vous êtes atteint de la maladie, alors nous ne voulons pas aussi être contaminés. D'où nous ne savons pas vous recevoir. Et ces gens-là sont en train d'errer ici et là, ils ne savent pas quoi faire. Comment ils peuvent aussi gérer leur stress. Ça, c'est le deuxième quoi. Maintenant, je voulais poser la question à l'invité par rapport à certains hommes qui sont polygames. Alors, ils étaient habitués à tout moment de faire des oscillations intempestives dans les différentes familles. Maintenant qu'il y a confinement, je ne sais pas comment l'invité peut prodiguer les conseils à ceux-là qui ne savent pas maintenant faire beaucoup de déplacements pour aller voir d'autres familles qu'ils ont laissées quelque part. Ça, c'est la troisième question. Maintenant, pour terminer, parce que l'invité a dit qu'il n'y a pas de solution, c'est question de prendre conscience. Mais il n'y a pas aussi moyen de trouver solution par rapport au transport. Parce que j'ai vu au Congo, au Nord Kivu, on a repris le transport aérien. Alors, comme Kananga, Kasaï Central, Kanyuka, à partir duquel je vous appelle, nous ne sommes pas atteints du corona. Aucun cas n'est confirmé jusqu'ici parce que les mesures sont renforcées par le gouvernement provincial. Alors, n'y a-t-il pas moyen que l'on puisse organiser même le transport aérien entre les coins non touchés par le coronavirus pour permettre à ceux-là qui ont les soucis de rejoindre leur famille à pouvoir les rejoindre et vivre aisément, mais toutefois qu'ils passent au contrôle sanitaire pour qu'il soit nécessairement attesté positif ou soit négatif. Merci.
Oui, merci Kachai d'avoir appelé de Kanyoka. Mais il faut dire, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qu'également Jérémy avait évoqué tout à l'heure, c'est vrai, il y a l'État congolais qui fait déjà des efforts pour essayer de revenir au pays. Il y a certains Congolais qui ont été bloqués à l'extérieur du pays. On a vu des vols spéciaux qui sont venus dernièrement de Dubaï. On espère que cela pourrait également être fait pour des Congolais qui sont bloqués à l'intérieur du pays. Merci Kachai d'avoir appelé de Kanyoka. Nous allons nous rendre à Bounia pour retrouver Héritier. Bonjour Héritier. Héritier, vous êtes à Bounia, vous nous suivez? Il me semble qu'Héritier n'est plus en ligne. On sera en Boujimaï pour retrouver Shadrach. Bonjour Shadrach.
Oui, bonjour Monsieur Marcel Ngombala. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kalpi.
On vous écoute, Shadrach, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet, vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress?
Oui, merci beaucoup. J'ai deux cas de figure à faire voir à l'invité. Le premier cas qui concerne mon grand frère, il a la famille à Kinshasa, il était en mission en Boujimaï. Alors, il y avait un service là au niveau de la mairie de Boujimaï. Il était allé se faire identifier pour le rapatriement, pour qu'il rentre à Kinshasa. Alors, c'est depuis qu'il est allé se faire identifier, il est là, jusque là, il sait pas où, à quand il va rentrer à Kinshasa. Et maintenant, il s'inquiète, il manifeste un peu de trouble. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'ai du mal à supporter quand bien même l'entreprise me prend en charge, paye l'hôtel, me nourrit, tout, mais néanmoins, je ne suis pas dans ma peau du fait que à la maison avec les enfants, seul avec la femme, je ne serai pas nécessairement. Il faut que j'y aille seul si je peux supporter ma famille, même en mode de confinement, que je puisse le supporter de près au lieu de le supporter à distance. Je suis un peu stressé ainsi de suite. Alors le deuxième cas, Monsieur Marcel, qui concerne personnellement la belle-sœur. Elle vit tellement à Kinshasa, mais néanmoins, elle était en congé. Alors, elle est venue faire un petit tour ici à Mbujimaï. Alors, avec le mesure prise par la chef de l'État, alors elle est bloquée. Elle est dans le risque de perdre du boulot parce qu'au boulot, il n'y a que des absents et des absents. Alors, elle ne sait pas quoi faire. Voilà le pourquoi je voulais suggérer mes deux cas à l'invité. Quels sont les conseils qu'il peut prodiguer à mes frères qui souffrent de stress très élevé. Merci beaucoup.
Merci Shadrach d'avoir appelé de Mbujimaï. Mbandaka, Platini est en ligne. Bonjour Platini.
Marcel Ngombo, bonjour. Bonjour l'invité.
On vous écoute Platini, votre question.
Merci beaucoup, Marcel Ngombo. Moi, je n'ai pas une question, mais j'ai une petite contribution par rapport à cette thématique. Je sais que la thématique du jour est très importante. Mais Marcel, comme vous le savez très bien, que nous sommes en période de la pandémie, en tournant les récents, on vit des lois avec les familles, avec les enfants, ça pose vraiment sérieux problèmes, parce que comme vous le constatez très bien. Et aujourd'hui, ça pose maintenant sérieux problèmes. C'est pour ceux qui travaillent dans le service public de l'État ou bien dans les services privés. Marcel Ngombo, moi, personnellement, je suis victime parce que j'ai mon grand frère qui s'est tout battu dans ça. Il travaille ici dans la province de l'Équateur, mais il s'est posé un problème. Il travaille dans une société des Chinois. Mais et ça a créé problème. Et aujourd'hui, là, j'ai même son document pour dire que non, lui ne peut pas encore revenir à ces travaux-là. Parce que lui, il était là-bas justement pour voir un peu la famille. Au retour, les décisions du chef de l'État, ça a créé un sérieux problème. Alors moi, ce que je voudrais justement demander à l'invité qui est avec vous au plateau, est-ce que l'invité peut nous expliquer un peu? Parce que pour le moment, je sais que la meilleure communication qu'on communique avec les familles, c'est le téléphone, c'est la voix téléphonique. Et aussi la voix sur nos sons, on dit la MPSA, Orange Money, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le système de la télécommunication bénéfice et rebasser un peu le prix de crédit? Parce que maintenant là, on entend que le prix de crédit, ça augmente. Mais maintenant, nous sommes dans un état d'urgence, que tout le monde prenne ça en considération. Alors, je ne sais pas si nos réseaux qui se placent ici dans la RD Congo peuvent nous comprendre un peu le moment que nous sommes en train de vivre pour le moment. Parce qu'on est bloqué, il y a des familles passées par là. S'il faut envoyer de l'argent, on va couper. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, ne serait-ce que pendant cette période, tout ça, d'aider un peu le chef de l'État dans un état d'urgence qu'on a? C'est quoi? Qu'on peut envoyer quand même de l'argent chez quelqu'un qui est à Bukavu, à Kinshasa, qui ça passe un peu gratuitement. Appel. Pourquoi pas ça peut aussi être gratuit? Parce que nous sommes dans une période d'urgence de la pandémie qu'on a déjà. Je dis, Marcel, je crois que je voudrais juste avoir un peu l'idée par rapport à l'invité.
Merci.
Ce que moi, je voudrais quand même...
Oui, rapidement, Platini, rapidement, oui.
Oui, je crois que ce que je voudrais quand même demander au chef de l'État, je sais que nous sommes là et on est quitte l'ordre donné par le chef de l'État. Bien sûr, ça. Mais je ne sais pas ce qui est bloqué dans nos différentes provinces. Est-ce qu'il peut retourner gratuitement? Est-ce que le gouvernement peut prendre toute une mesure de faire répatrier ces personnes-là gratuitement? Parce que vous le savez très bien, tu peux avoir de l'argent, mais tu as mangé, c'est fini. Pour retourner, ça pose le même problème. Je ne sais pas quels sont les mécanismes, les mesures prises par le gouvernement après cette période de la pandémie à coronavirus. Voilà ce que je voudrais avoir un peu vraiment l'idée sur l'invité Marcel Ngombo.
Merci Platini d'avoir appelé de Madaka. On va retrouver cette fois-ci une dame qui nous appelle depuis Arou. Élisée, vous êtes en ligne. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour, je suis Élisée depuis Arou.
Je suis désolé. On me dit, c'est un monsieur, voilà, je suis désolé. J'aurais bien aimé avoir une dame au bout du fil. J'espère que les dames qui nous suivent vont vous appeler. J'insiste, et par rapport aux dames qui sont loin de leurs époux, qui sont peut-être en train de vivre une situation difficile, si elles peuvent bien témoigner au cours de ce magazine, appelons 081-890-63-94. Élisée, vous êtes un monsieur, vous avez la parole. Élisée, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, mais c'est le problème des raisons.
Bon, allez-y. Ah, décidément, il y a un problème avec Lisée depuis Arou. J'espère qu'on va le retrouver plus tard. Les temps pour nous de revenir à notre invité, à M. Gabriel Kissala, qui est directeur général du service central éducation à la vie. M. Gabriel Kissala, vous avez suivi tour à tour tous ces cas qui ont été évoqués parmi des auditeurs qui ont appelé. Vous avez suivi des enseignants qui sont bloqués, par exemple à Kananga. Vous avez suivi également Bujimayi, où ces messieurs qui travaillent dans une entreprise, c'est vrai, l'entreprise prend soin de lui, mais il est en train de vivre une situation difficile simplement parce qu'il est loin de sa famille. Il aurait aimé être à côté de sa famille. Vous avez également suivi Platini, qui a proposé, si c'était possible dans cette période de confinement, que les entreprises de communication puissent un peu réduire leur tarif. Alors, comment réagissez-vous par rapport à tout ça?
Oui, merci. J'ai bien suivi les différents intervenants. et je leur dis merci aussi pour tout ce qu'ils ont dit. Mais moi, je pense qu'il y a à faire la part des choses.
Oui.
Il est plus facile de pointer du doigt l'État, de pointer du doigt tel ou tel ou qui ne peut pas assumer sa responsabilité. Mais moi, je pense qu'il y a à faire la part des choses. Il y a la part de l'individu, c'est-à-dire nous qui voyageons, nous qui nous déplaçons, et il y a aussi la part de l'État. Je ne vais pas me mettre substitué à l'État pour donner des réponses, mais en tant que citoyen de ce pays, je peux moi aussi présenter mes souhaits, comme cela est apparu dans les interventions de plusieurs de nos amis qui sont passés. Je reviens à la part de l'individu, c'est-à-dire celui qui se déplace et qui se retrouve aujourd'hui en cette situation de confinement extra-familial. Eh bien, là, nous avons déjà dit qu'il faut, quand il faut se déplacer, prendre toutes les dispositions pour rester dans l'égalité, c'est-à-dire suivre la procédure normale de déplacement. On part de chez soi. Quand on part de chez soi, on doit savoir qu'il faut une autorisation de sortie. Il faut qu'il y ait des gens qui soient informés au niveau, au point de départ comme au point d'arrivée. Ça, c'est la responsabilité personnelle. Et il le faut nécessairement. Si nous ne le faisons pas, nous trouvons ça tout le temps comme une tracasserie. Eh bien, maintenant, là, nous nous rendons compte que, après le coronavirus, il faudra que certaines dispositions changent dans nos pays. Je ne dis pas seulement chez nous au Congo, mais dans les différents pays. Maintenant, par rapport à l'État. Par rapport à l'État, je crois que c'est... Je parle en tant que citoyen. Moi, je ne parle pas au nom de l'État, mais en tant que citoyen.
Oui.
C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à contribuer à tout point de vue aux différents aspects du développement de son pays. Je pense que la situation de coronavirus que nous vivons maintenant est une situation nouvelle. À moins que je ne me trompe, je crois que c'est la première fois qu'une pandémie de cette ampleur dans le monde entier. Il y a eu des pandémies avec le SSRH, le syndrome de stress aigu, mais qui s'est arrêté en Europe, qui n'est pas arrivé chez nous. Mais la pandémie que nous connaissons actuellement, c'est une pandémie presque mondiale, disons-le, mondiale.
Oui.
Aucun pays, nous suivons les informations à la radio, à la télévision, nous devons nous rendre l'évidence et dire qu'il n'y a eu aucun pays, même pas les États-Unis, qui était préparé à affronter l'ampleur d'une telle pandémie. Nous l'avons remarqué, même quand il fallait penser aux appareils respiratoires des États-Unis, la ville de New York n'en avait pas assez.
Oui.
On a dit qu'au Mali ou au Burkina Faso, il n'y en avait que trois. On ne parle pas de nous-mêmes. Donc, aucun pays n'était déjà préparé à affronter cette pandémie. Donc, c'est une circonstance qui vient d'arriver et qui doit nous interpeller tous.
Oui.
Chacun de nous en tant qu'individu citoyen de ce pays, mais chacun de nos des États du monde aussi. Je reviens à l'État pour dire,
oui,
nous voyons ce qui se passe ailleurs. Quand il y a plus d'âge, parce que je considère le confinement extra-conjugal ici comme une contrainte, comme quelqu'un qui est pratiquement pris en otage. Malgré lui, bon, ici, il n'a pas commis une faute, mais il s'est retrouvé dans cette situation-là. Mais notre pays doit se soucier de tout Congolais qui n'est pas chez lui et qui est en situation défavorable, en situation de vulnérabilité, en situation de détresse, surtout quand cette situation n'a pas été provoquée par...
Voilà, là le message, je crois, est tombé dans la bonne oreille. Hein. Les gouvernants, l'autorité compétente pourra s'épancher là-dessus. Alors, avant de nous quitter, hein, M. Gavek Kissala, puisque vous êtes directeur général du service central d'éducation à la vie, vous avez suivi un monsieur qui a parlé de la polygamie. Hein. Qu'est-ce que vous avez,
oui,
à dire par rapport à ça rapidement?
Ah, merci. Polygamie, quoi qu'on le dise, la polygamie n'a jamais été une valeur. Et mon collègue, je crois que c'est Jérémy ou Assia qui a parlé de ça,
oui,
doit savoir que dans la loi congolaise, le mariage monogamique qui est reconnu. Donc
fait,
quand quelqu'un trouve que il peut se permettre d'avoir deux, trois ou quatre concubines, eh bien, on dit que quand on a tiré un vin, il faut le boire.
Oui.
Une situation pareille met à nu je ne dirais pas l'infidélité, mais le caractère plus ou moins, disons-le, anormal de la polygamie. Parce que maintenant, quand on est confiné, on ne peut satisfaire ni l'un, ni l'autre. Il y a des choses qui étaient cachées qui vont se mettre à jour et qui mettront davantage mal à l'aise les polygames lui-même, tout comme ces deux épouses, et pourquoi pas les deux familles, donc les enfants de part et d'autre.
Voilà, donc on comprend, Il faut tirer les conséquences de la situation. Voilà, Gabriel, nous rappelons pour vous la façon de gérer ces situations. Il faut être positif, il faut être patient et puis savoir communiquer avec la famille qui est loin de vous et puis se dire que un jour, ça finira par passer. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Kissala. Nous rappelons que vous êtes directeur général du service central éducation à la vie.
Je vous remercie.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress, voilà le sujet qui est abordé dans ce magazine au Capi Service. Nous allons à présent voir un autre invité, il est déjà en ligne, Valentin Toumboa, qui est psychologue. Valentin Toumboa, bonjour.
Bonjour Marcel.
Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ces questions sur vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress, avant de nous rendre à Kalimi, où nous allons suivre l'entretien que notre confrère François Xavier Mibé a eu avec un chef de service DGM congolais qui est bloqué à Kalemi. Valentin, cette question que j'aimerais vous poser d'emblée. Vivre loin de sa famille, lorsqu'on se retrouve à bloquer quelque part alors qu'on était en mission de service ou on était pour une raison ou une autre, c'est pas facile. Ça c'est vrai, on vient de suivre l'invité qui vous a précédé qui a dit qu'il faut savoir communiquer, mais quelle que soit la façon dont on peut aborder la question, il y a toujours le stress qui finit par s'en suivre.
Oui, ce qui est vrai avec la pandémie que nous sommes en train de vivre, ce qui est vrai, ce n'est pas facile et c'est connu de tous. Parce que le fait d'entendre, que ce soit lui qui est loin de sa famille ou ceux qui sont dans de famille, la situation est vraiment très très stressante, très très angoissante. Nous savons que cette situation où l'annonce de cette pandémie ne laisse personne d'être indifférent. Chacun de nous est en train de vivre ça de sa manière et ce qui demande, ce n'est pas pour rien que vous avez choisi un psychologue qui peut donner un peu son apport. Mais je veux aussi dire par rapport à mon prédécesseur, c'est-à-dire celui qui m'a précédé, qui a annoncé de bonnes choses que j'ai retenues, qui à la fin a parlé en tant que juriste. Le fait de dire que non, et maintenant on va connaître tous ceux qui étaient dans l'infidélité, ça va sortir. C'est là où ça intéresse la psychologie. C'est non dit. C'est ce qui apparaît n'est pas être fait, mais qu'on trouve les gens sont en train de faire. Est-ce que la psychologie est appelée d'abandonner? Non, la psychologie va s'intéresser par rapport à ça. Maintenant, je reviens par rapport à votre question fondamentale.
Valentin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va vous donner l'occasion de revenir par rapport à cette question. Il est temps pour nous de nous rendre à Kalemi et puis on va vous retrouver pour suivre cet entretien de François Xavier Mibé avec un chef de service DGM congolo qui est bloqué à Kalemi.
Monsieur Mohamed Morisho, bonjour.
Bonjour, bonjour.
C'est vrai, vous êtes le chef de GEM Congolo. Mais en bref, séjour ici à Kalemi. À Kalemi où vous êtes arrivé, n'est-ce pas, pour raison de service, mais finalement, vous êtes bloqué. Vous ne savez pas normalement regagner la localité de Congolo, votre poste d'attache. Dites-nous, par exemple, en ce moment, lorsque vous êtes loin de la famille, qu'est-ce que vous sentez?
Oui, moi je suis rappelé ici à Kalemi dans ma direction, dans mon hiérarchie, je suis ici bloqué. Je ne sais pas comment est-ce que rejoindre ma famille. Je suis isolé quelque part ici. Mm-hmm. Bon, je vis dans la difficulté. Je suis vraiment dans la difficulté totale. Mm-hmm. Je ne sais pas comment rejoindre ma famille. Mm-hmm. Oui.
Ah, c'est vrai. Est-ce que vous sentez vraiment que la famille vous manque?
Oui. Je suis loin de ma famille. Ça ne m'arrange pas.
Oui, c'est vrai. Puisque ça ne vous arrange pas. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites pour être en contact avec la famille, pour avoir des nouvelles, par exemple, de la famille?
J'attends l'ordre de mon directeur. J'attends l'ordre de mon chef. C'est le chef qui va me libérer pour rejoindre ma famille. Ce n'est pas... Dès qu'il sera à mesure de me libérer, je serai à côté de ma famille. Je vais rejoindre mon poste.
Tout à fait. Et maintenant, au niveau de relations avec la famille, qu'est-ce que vous faites pour avoir des nouvelles de la famille?
Bon, je cause avec ma famille, je partage avec ma famille. Ma famille se porte bien, alors moi je suis très loin de ma famille. Mmh. Je suis ici à Congo, à Kalemi. J'ai le souhait de rentrer chez moi pour aller rejoindre ma famille.
C'est
ça mon souhait.
Tout à fait. Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous sentez vraiment que la famille vous manque?
Oui, je ne suis pas tranquille. Avec cette période, être loin de la famille, ce n'est pas vraiment... je suis vraiment inquiété de ce qui se passe ici à Kalemi. Il faut me libérer pour rejoindre ma famille. Oui.
Tout à fait. Est-ce que vous avez des nouvelles des enfants? Qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple, au téléphone, nous supposons?
Bon, ma famille veut que le problème de l'érosion, il y a vraiment... À Congo, il y a un petit problème là-bas. Ma famille ne porte pas bien. Il y a un petit problème là-bas à Congo, à côté de ma famille.
C'est vrai. Et maintenant, c'est quoi la solution que vous... Parce que c'est vrai, quand quelqu'un vit éloigné de la famille, il arrive des fois qu'il y pense, mais il ne peut pas. Et maintenant, comment est-ce que vous gérez ces temps-là?
Bon, je supporte seulement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ça, c'est un service commandé.
Ah oui, tout à fait.
J'attends l'ordre du directeur.
Ah oui, tout à fait.
Ce n'est pas de moi qui va décider.
Tout à fait. Très bien. Voilà, merci beaucoup, monsieur le chef DGM, pour vous être prêté à nos questions dans les cadres de Radio Capi Service. Voilà, bon séjour à Kalemi.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Je vous en prie, moi aussi. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci également François-Xavier Mibié pour cet entretien avec ce chef de service DGM Congolo qui a été bloqué à Kalemi. On va retrouver notre invité Valentin Toumba tout à l'heure.
À Kalemi sur 105 FM.
Valentin Toumba, vous êtes psychologue. Vous êtes psychologue, voilà un cas qui vient confirmer ce que je disais tout à l'heure par rapport au stress de vivre loin de sa famille. Vous avez suivi, il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à toutes ces personnes qui sont loin de leur famille, qui n'arrivent pas à supporter cette situation et qui finit bien par le stresser. Vous avez encore eu à suivre les témoignages de ce chef de service DGM Congolo qui est bloqué à Kalemi. Donc on se rend compte que finalement, qu'on le veuille ou pas, le stress est là.
Vous l'avez bien trouvé. Vous avez posé des questions. Vous avez compris que malgré les termes techniques utilisés, il avait un peu de... Il annonçait vraiment les éléments de stress. Pourquoi nous allons confirmer qu'il y a de stress? À la question de savoir si la famille va bien, il a dit oui, la famille va bien. Et par après, on lui pose la question, est-ce que vous êtes à l'aise tel que vous êtes bloqué à Kalemi? Il dit non, je ne suis pas à l'aise parce qu'il y a des situations là-bas. Bon, moi, je fais la lecture en dehors de stress. Il annonce aussi quelques éléments d'angoisse sociale. Lorsqu'il dit, il y a une situation à Congolo qui n'arrive même pas à localiser comme il se doit. C'est-à-dire, l'idée est très fixe par rapport à son retour. Son retour dans son milieu habituel, ça va le mettre à l'aise et ça va sécuriser la famille. Mais comme lui n'est pas sur place, il voit une situation imminente qui va survenir, qui va déranger sa famille. Et quand vous avez posé encore une autre question, j'ai senti un peu de super émotivité. Il est un peu surexcité. Et malgré lui, voilà, il annonce une petite annonce de quoi ça, un peu de rancœur pour dire non, je n'en peux rien, je suis dans un service commandé et qui ne comprend pas que je suis dans une mauvaise position du fait que je sois loin de ma famille. Tous ces éléments réunis, nous pouvons dire que les tableaux est vraiment peint d'une situation stressante. Il n'est pas dans un état psychologique stable. Maintenant, je reviens à votre question de savoir quelle occupation il peut avoir. Vous avez suggéré il est censé être en contact avec la famille. Être en contact avec la famille signifie appeler. Et nous connaissons nous-mêmes la bourse de fonctionnaires. Je ne le vois pas avec les moyens qu'il dispose, capable d'appeler chaque fois et d'être en contact avec sa famille pour créer cette ambiance dans les systèmes virtuels. C'est pratiquement difficile par rapport à lui. Mais il y a une autre suggestion. Quand vous êtes dans une situation de stress, il faut se créer de récréation. Permettez cette tautologie. Il faut avoir des occupations. Créer une autre occupation. Il est à Calémie, il n'est pas en activité maintenant là, tel qu'il le faisait quand il restait à Kongolo. Mais je suppose que dans son téléphone, il peut y avoir des jouets, il peut bien se donner. Il peut se donner à la lecture, malgré que nous n'avons pas cette habitude-là de lire. C'est ce qui est la faiblesse de l'intellectuel congolais. Il peut s'entourer de tous ces documents. Ce qu'on doit plus éviter par rapport à cette pandémie, c'est d'entrer plus à l'Internet pour chercher quels sont les symptômes et comment on peut attraper. Quand vous êtes penché par rapport à ça, alors vous pouvez développer d'autres troubles. Au lieu que ce soit la pandémie qui vous attaque, ça sera par rapport à d'autres troubles psychologiques.
Donc il faut plus respecter les gestes barrières positivés, hein, parce que c'est ce que vous aimez bien conseiller aux gens.
Avez raison, respecter les gestes barrières, ça c'est vraiment correct, tel que ça a été annoncé. Mais chercher dans l'Internet, quand quelqu'un a le corona, il le développe comment, et c'est toujours lié par rapport à ces informations. Au même moment qu'on annonce une personnalité à risque, par exemple lui, qui est en dehors de sa famille, et ajouter encore les informations abondantes par rapport à la pandémie, ça peut facilement le fragiliser davantage. C'est comme ça que j'ai dit, il peut chercher d'autres occupations, notamment la lecture. En dehors de lecture, il peut avoir le système de quoi ça, d'avoir un peu le jeu.
Voilà, Valentin, oui. On revient à vous. Il est temps pour nous d'accorder la parole à deux auditeurs qui sont déjà en ligne. Safari, qui nous appelle de Higa Barrière, et après des Bounia, Nitouri, et Héritier, qui est aussi à Bounia. Voilà, Safari, vous êtes à Higa Barrière. Bonjour, Safari.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde.
Oui, allez-y rapidement. Votre question par rapport à ce sujet, vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress?
Ok, d'accord. Avant de donner une fille, je sais que moi, je m'excuse d'abord de devoir déraper dans l'émission d'hier à la radio au Capi. Alors, monsieur le journaliste, moi, je vis en dehors de ma famille il y a de cela 6 ans déjà. Alors, dans ces 6 ans, j'ai ma manière de gérer le stress. Même à cette période de confinement, je continue de cette façon-là de gérer mon stress. Comment est-ce que je gère? Je gère mon stress en appelant ma famille au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Et je vous demanderais même d'appeler au plus de ça, mais comme il y a les moyens ne permettent pas parfois, donc j'appelle une fois par semaine. En plus de cela, j'écoute la...
Oh voilà, désolé pour Safari qui nous appelait de Higa Barrière, mais au moins il a découvert comment lui fait pour gérer le stress. Ça fait 6 mois, si j'ai bonne mémoire, qu'il est loin de sa famille. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour Héritier. Ben, Héritier non plus a un problème depuis Bounia. Là, on retrouve notre invité, Valentin Toumba. Alors Valentin, vous avez suivi Safari qui nous appelait de Higa Barrière, qui lui a dit comment lui fait pour gérer son stress.
Oui, là vous avez raison. Il a dit qu'il appelle une fois la semaine sa famille pour avoir des informations. Je reviens par rapport à ma suggestion. Quand il appelle une fois, il y a les autres moments. Oui. Il devrait nous dire comment il occupe ses autres moments. C'est comme ça que moi je reviens à la charge pour annoncer. C'est mieux d'avoir de créer des occupations, d'avoir le temps de récréation, faire un peu de gymnastique et ainsi de suite. Ça peut facilement aider l'individu pour sortir de quoi ça d'une situation de stress.
Et on me fait signe que héritier à Bounia, ça marche cette fois-ci. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour héritier.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour monsieur le journaliste.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, j'avais une petite question que je voudrais poser.
Allez-y, oui.
Prenons un exemple, un mari qui quitte ici à Bounia, et il voit Kinshasa, pour des raisons urgentes là-bas. Lorsqu'il arrive là-bas, il est bloqué. Alors, le mari ne peut plus sortir de là. Alors, pour arriver ici à Bounia, ça lui pose un problème. Alors, est-ce que cela a des impacts négatifs à la vie conjugale entre son mari et sa femme qui est ici à Bounia et son mari est bloqué là? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences négatives qui surviendront à cette famille-là?
Héritier, j'ai pas bien compris. Vous avez dit que le mari se retrouverait bloqué à Kinshasa et puis il fait quoi?
Sa femme ici, qui est ici à Bounia, est-ce que cela n'aura pas des impacts négatifs à la vie conjugale de cette famille-là? Lorsque le mari est bloqué à Kinshasa, et sa femme ici, il est ici à Bounia, est-ce qu'il n'y aura pas des impacts est-ce que la femme n'ira pas chercher un autre homme?
Voilà, on a compris héritier. Merci d'avoir appelé depuis Bounia. Valentin Toumboua, qu'est-ce que vous dites héritier?
Oui, là je parle de l'infidélité. On ne peut pas tolérer. Nous savons que à tout moment l'homme peut aller chercher et pourquoi pas la femme qui peut aller aussi chercher. Et cela ne signifie pas à l'absence de quelques moments que ça donne une autorisation à la femme d'aller dans l'infidélité ou à l'homme de tomber dans l'infidélité. Ce qu'on doit savoir, c'est ces dialogues par rapport à notre premier intervenant qui a dit qu'il est en contact permanent avec sa famille. C'est mieux que les dialogues soient là. Il peut y avoir des difficultés liées à la gestion des ménages, notamment des problèmes économiques. Et si l'homme est capable d'intervenir, à quoi bon autoriser à la femme, même s'il n'arrive pas à le faire? Il y a des mécanismes autorisés pour le présenter auprès de l'état civil et non pas autoriser à la femme de tomber dans l'infidélité ou à l'homme. L'homme est censé savoir qu'il est créé pour une seule femme et la femme aussi a prêté serment par rapport à cette fidélité vis-à-vis de son mari.
Donc Valentin, si je vous comprends bien, vivre loin de sa famille en cette période de confinement, c'est pas une raison pour se retrouver dans l'infidélité, c'est bien clair.
Vraiment, ce n'est pas une raison.
Voilà, Valentin Toumboua, on va vous retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie du magazine Okapi Service après le flash de 11h heure de Kinshasa pour continuer à parler de ces sujets, comment vivre loin de sa famille en période de confinement et comment surtout gérer le stress.
Mori ma nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Place à la deuxième heure de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service où nous parlons vivre loin de sa famille en période de confinement. Comment gérer le stress? Nous allons retrouver notre invité, Valentin Toumboua, qui est psychologue, qui va conclure par rapport à ces sujets. Mais je profite pour vous rappeler le numéro des contacts pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. Si vous êtes intéressé par ce sujet sur comment vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer, vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress, voilà, c'est ça le sujet. Si vous voulez intervenir, composez les 081 890 63 94. Valentin Toumboua, vous êtes psychologue, on parlait justement avec vous de ces sujets dans la première heure de ce magazine. Alors nous avons suivi pour vous la meilleure façon de gérer le stress, c'est d'abord garder les contacts avec la famille et puis surtout à trouver des occupations.
Marcel, d'abord je veux dire grand merci, et l'initiative ne pouvait venir que de Okapi Service, parce qu'en ce qui concerne l'être humain, nous connaissons, il y a trois dimensions. Il y a d'abord la dimension somatique, oui, qui est le corps, et c'est là où les médecins sont en train de soigner, et nous avons la dimension l'âme qui concerne les psychologues, et là où on voit les non-dits. Et il y a la dimension spirituelle qui est le problème de croyance de ce qui est Dieu. Bien, maintenant quand nous voyons l'équipe des ripostes, ce que nous sommes en train d'insister, c'est mieux que cette équipe soit multidisciplinaire. Et c'est vrai, ils sont là. Et au niveau des médias, voilà, Okapi Service a songé à un psychologue pour intervenir, qui est en dehors des gestes de barrières que nous sommes appelés impérativement à respecter. Nous sommes appelés, nous savons que quand il y a une situation pareille, on peut trouver plus de morts par rapport à d'autres maladies qu'à la pandémie elle-même, parce que le fait de fixer un peu le regard sur ça, ne pas bien gérer la dimension psychologique, ça peut amener à beaucoup de troubles psychosomatiques et amener des gens aussi à tomber malade et mourir si on n'arrivait pas à très bien le prendre en charge. Quand Okapi pense aux psychologues, nous ne pouvons que saluer et dire merci à Marcel qui a songé à intervenir. Et nous revenons que chaque cas en psychologie, c'est un cas particulier, c'est un cas singulier. Nous avons donné des réponses de manière holistique, c'est-à-dire de manière générale, que c'est nécessaire, tout en respectant les gestes de barrières aussi, à savoir communiquer avec sa famille et chercher à avoir des occupations. Oui. Mais si chaque fois que nous pouvons être invités par rapport à des cas particuliers, par rapport à leur vécu quotidien, et à ce moment-là, nous pouvons trouver quel genre de scénario que nous pouvons mettre en place par rapport à ces cas pour vaincre les problèmes de stress, pour vaincre les problèmes d'angoisse, ça serait à nous de voir est-ce que ce sont des stress ou ce sont des angoisses ou il s'agit de l'anxiété. Parce qu'ici, nous avons plus aussi cette anxiété sociale qui est en train d'emballer beaucoup de gens. Il y en a qui commencent non,
merci.
Même...
Allez-y, concluez. Oui, merci. Ah. On peut s'arrêter par là, Valentin Toumboua. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, vos remerciements, c'est pas Marcel, mais c'est à toute l'équipe d'Okapi Service. On espère vous retrouver prochainement. Voilà, on va poursuivre avec cette fois-ci des auditeurs qui sont déjà en ligne par rapport à ces sujets. Vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress? Nous avons Maître Olivier qui nous appelle de Guadeloupe et nous avons également Fariel qui appelle de Kadanga. Je profite également de l'occasion pour rappeler le numéro des contacts si vous voulez intervenir au cours de cette émission. Composez les 081 890 63 94. Maître Olivier, vous nous appelez de Guadeloupe. Bonjour.
Oui, bonjour Marcel, également aussi bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Maître. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets? Vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress?
Je pense que c'est un sujet tellement intéressant. Nous devons quand même mettre des ingrédients pour permettre à certains gens qui sont confinés dehors de leur famille de pouvoir prendre certaines dispositions. Alors, je pense qu'à mon humble avis, il y a deux responsabilités. La première responsabilité, c'est la responsabilité individuelle. Et puis, la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Si je parle de la première responsabilité, qui est la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que la personne qui est confinée en dehors de sa famille, il doit faire le nécessaire possible de loin de lui le souci, de loin la peur, puisque ce sont des éléments qui sont des ennemis mortels de la vie. Si il s'apprend à pouvoir éloigner la peur, à éloigner le souci, ça va faciliter la tâche. Il doit faire le nécessaire possible de voir que dans la vision, c'est comme s'il est en voyage et il va retourner. Quand on est en voyage, on laisse la famille. Et puis, quelques temps, on retourne. S'il me dit derrière la tête que je suis en voyage, je vais retourner, ça sera très important. Il doit faire aussi le nécessaire possible de pouvoir maintenir des relations permanentes avec sa famille. Et aussi créer des activités, créer des circonstances qui vont permettre à pouvoir le distraire. Peut-être s'engager dans la prière, s'engager dans la méditation, lire de romans, des ouvrages. Ça, ce sont des responsabilités personnelles qui engagent l'individu. Ça va permettre de les libérer dans tout ça. Moi, je pense que la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Je pense que l'État aussi doit pouvoir faire quelque chose pour ses compatriotes. L'État doit faire le nécessaire possible de pouvoir engager des conseils psychologiques à ce stade pour essayer dans des émissions, modifier des émissions de la radio, de la télé. Et par là, le conseil psychologique doit pouvoir conseiller à tous ces gens. Ça va quand même les ramener à quelque part à leur motiver. Et si l'État aussi doit pouvoir mettre des moyens, c'est que si on peut peut-être en dehors de la famille, peut-être à l'étranger, l'État doit mettre des moyens, organiser des tests si possible, s'il n'est pas atteint, il doit permettre aux moyens pour le rapatrier. Voir même c'est que si dans les provinces, organiser sur 26 provinces, c'est plus ou moins 6 provinces qui est touché, les autres ne sont pas touchés. Si l'État fait des issues apparaître, ça pourrait aussi aider, ça pourrait aussi contribuer à ce que leurs compatriotes puissent revenir à la normale de leur pensée.
Merci, Maître Olivier, d'avoir appelé les Guadeloupéens. Vous insistez sur la responsabilité individuelle et la responsabilité de l'État. Merci d'avoir appelé les Guadeloupéens. Fariel, vous êtes à Kananga. Bonjour, Fariel.
Oui, merci beaucoup de la parole. Je dois pouvoir poser une question seulement à notre invité qui est sur vos antennes. Vous savez bien que quand le chef de l'État décrète un état d'urgence, il est appelé à enfreindre les libertés fondamentales des individus. Comment expliquer ici, il y a un monsieur qui est venu de Kinshasa pour se marier à une dame ici. Après avoir passé à la cérémonie du mariage, il a envoyé sa femme à Kinshasa. Il a dit, je dois te suivre après. Après le départ de la femme, le président décrète l'état d'urgence et on a bloqué les moyens de transport. L'homme est ici. Alors, comment l'individu, l'invité qui est avec vous sur la radio Capi, et donner le conseil à cet homme qui est ici avec nous à Kananga. Donc ça fait déjà un mois qu'il est ici avec nous et il n'a même pas les moyens pour causer avec sa femme. Vous savez que la communication chez nous ici coûte vraiment très cher. Donc comment il peut s'en sortir parce que sa femme n'est pas ici. Donc il fait déjà 2 mois et demi ici. Qu'est-ce que votre invité peut donner comme conseil à cet homme qui vit avec nous ici à Kananga? Donc ça fait longtemps.
Merci Fariel d'avoir appelé du Kananga au tourne ici à Kinshasa pour accorder la parole à Eric. Bonjour Eric.
Bonjour l'invité aussi, mes précédents qui m'ont quand même cédé là. Bien, je suis tellement coquiné avec les sujets en question bien que je suis encore célibataire à vie et en vie, mais quelque chose que j'allais un peu signaler, le fait de vivre avec le membre de la famille à distance, c'est bien aussi. Je donne l'exemple. J'avais le grand-père qui était à l'étranger, mais lorsqu'il est arrivé ici à Kinshasa, pour me voir avec lui, il m'a dit non, tout ce qui peut se passer, il faut qu'on puisse seulement se communiquer, seulement à distance. Et aussi, par exemple, un PSA et autres, on peut commencer à faire quoi? À s'envoyer sur un PSA. Et aussi, je me suis rappelé, il y avait des collègues, j'avais bien même pompé avec Monique, et ils venaient franchement de quoi de la France. J'ai constaté que pour être proche des comme ça, c'était difficile. C'est-à-dire, on criait trop là. Eh bien, moi, je me pose la question de savoir, sur place ici au Congo, une personne qui est dans une province, est-ce que il y a moyen qu'elle puisse revenir ici. S'il n'y a pas le moyen, comme on a décrété l'état d'urgence sanitaire, bien sûr, mais il faut que le gouvernement puisse organiser un peu quelques jours pour répartir en fait nos frères qui sont dans des provinces. C'est un peu ce que j'avais à contribuer pour les thématiques du jour.
Merci Eric depuis Kinshasa. À Kananga, nous avons Nestor qui est en ligne. Bonjour Nestor.
Bonjour Monsieur Marcel, c'est Nestor Mwepu à Kananga, dans la province du Kassa Central. Ah oui, c'est une situation un peu qui va plonger beaucoup de gens dans le stress, comme vous l'avez dit. Mais à mon avis, pour éviter un peu ce stress-là, les gens, l'État doit un peu faciliter la tâche aux autres. Vous savez quoi? La situation du coronavirus n'a pas vraiment affecté toutes les 28 provinces de la RDC. Il y a certaines provinces qui ne sont pas encore affectées jusque-là. À mon avis, l'État devra aussi quand même permettre aux gens-là qui étaient peut-être en mission de les recenser comme on l'a fait avec les Congolais vivant à l'étranger pour qu'ils puissent, après avoir enregistré ces gens-là, ils peuvent aussi être ramenés un peu à l'endroit où vivent un peu leur famille parce que avec ça, vraiment, ça ne va pas un peu mettre ces gens-là à l'aise. Et pour les gens-là qui sont un peu près de leur famille, mais qui sont en train de subir un peu ces temps de confinement, ils doivent beaucoup planifier avec les lectures parfois. Et aussi ceux-là qui ont des moyens, qui ont un peu de postes téléviseurs dans leur maison, ils peuvent aussi se distraire comme ça, ça pourrait un peu aller mal. L'État doit un peu faire tout pour un peu calmer cette situation qui risque de nous plonger dans une crise. Merci.
Merci à vous Nestor d'avoir appelé de Kananga. On va retrouver notre invité pour ce sujet sur comment vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress lorsqu'on vit loin de sa famille en cette période de confinement. Nous avons en ligne Emmanuel Bourama qui est éducateur et formateur au service central d'éducation à la vie. Emmanuel Bourama, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci de nous avoir rejoints dans ce magazine Okapi Service où on parle de comment vivre loin de sa famille en période de vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress. Vous avez suivi, vos prédécesseurs ont parlé de rester positif, d'avoir de la patience, de se dire que cette situation finira par passer. Il y a également notre qui a parlé de savoir trouver des occupations par exemple des jeux avec son téléphone. Alors, vous êtes éducateur et formateur au service santé éducation à la vie. Que direz-vous aux personnes qui sont dans cette situation pour arriver à gérer le stress? Vous avez suivi, il y a Maître Olivier qui a parlé de la responsabilité individuelle, de la responsabilité de l'État. Il y a également Fariel, lui, qui a parlé de ce monsieur qui est venu s'est marié à Kananga, qui a envoyé sa femme à Kinshasa, qu'elle précède, et puis le monsieur va rejoindre sa femme après. Et voilà, le monsieur est bloqué. Et vous avez également suivi Eric, qui, lui, d'après lui, c'est l'État qui doit prendre toutes ses responsabilités. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette situation de stress loin de sa famille en période de confinement?
Bien, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour tous les auditeurs de Radio Okapi qui ont contribué déjà dans cette émission. En ce qui me concerne, je dois d'abord dire que pour tout ce que nous pouvons vivre, chacun de nous peut vivre, dépend d'abord de soi-même, en parlant de relations individuelles. Ça dépend de comment on perçoit la vie, de comment on prend la vie.
je suis parfaitement d'accord avec les auditeurs, les intervenants qui ont parlé de la vision positive de la vie. La vision positive de la vie, c'est se dire la vie, elle est imprévisible. Et se mettre dans une situation où on se dit que tout peut arriver. Alors, si tout peut arriver, ça signifie qu'il faut être prêt à assumer tout ce qui peut arriver. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. C'est vrai, on est dans une période de confinement où il y a de nouvelles difficultés qui apparaissent. Et dans la vie, il faut s'attendre à tout. Donc, il peut y avoir des difficultés. La vie, c'est pas une ligne droite. Et cette capacité déjà de prendre tout positivement, de se dire que tout peut venir, tout passe, et se dire que toutes les situations, même si elles sont négatives, dans tous les cas apparemment négatives, mais il y a toujours quelque chose de positif que l'on tire dans une situation. Donc je crois que la disposition déjà personnelle de comment on voit la vie, de comment on prend la vie, et c'est pour ça que je pense que ceux qui vivent la vie positivement auront vraiment des atouts pour vivre ce confinement ici.
Alors, s'il vous plaît, monsieur Manuel, oui. Alors, prenons le cas de ce monsieur qui venait de se marier à Kananga. La femme est venue à Kinshasa avant lui, et il n'arrive pas à supporter, il savait pas qu'il va se retrouver en confinement là-bas, et il n'a pas de moyens. Comment il peut vivre positivement cette situation, lui qui venait à peine de se marier?
Bon, déjà, il y a le téléphone. Je crois qu'il y a possibilité déjà de garder le contact téléphonique avec son épouse, hein, avec la famille. Il y a moyen déjà de garder ce contact-là. Mais aussi, on peut garder ce contact parce que, comme nous pouvons dire, vivre avec quelqu'un, même une partenaire, ce n'est pas seulement être présent physiquement. Parce qu'on peut être physiquement présent et absent. Il y a des gens qui sont ensemble aujourd'hui, qui vivent ensemble, mari et femme, mais qui sont vraiment éloignés l'un de l'autre. Pourtant, physiquement, ils sont là. Mais il y a aussi moyen d'être absent. On peut être loin de chacun, loin de quelqu'un, mais les contacts permanents, les échanges permanents. Et donc, il y a des conditions qui peuvent permettre qu'on se dise, au fait, nous venons de subir une situation catastrophique, une situation difficile qu'on n'attendait pas, mais se dire cette situation va passer, mais qu'on garde quand même le contact permanent. Heureusement qu'aujourd'hui, le téléphone est là, et si on peut être sur WhatsApp, déjà, il y a même aussi moyen de voir les images, mais c'est continuer à se parler, à s'encourager mutuellement en se disant, bon, ok, c'est arrivé, et bon, dans l'entretemps, peut-être que là où chacun est, va l'aider à consolider les liens de famille là où il est pour atténuer le choc, mais en se disant toujours qu'une occasion viendra où nous allons nous retrouver, et peut-être cette séparation-là permettra, quand ils vont se rencontrer, peut-être que ça va encore renforcer davantage leurs liens d'amitié, leurs liens conjugal. Donc je crois que c'est question de maintenir le cap, de maintenir les échanges avec positivité en se disant c'est un accident qui nous est arrivé, mais qui va passer, mais avec espoir que nous allons nous retrouver et que les choses iront de mieux en mieux, quoi.
Donc dans la mesure du possible, toujours garder un contact permanent avec la famille. Nous allons retrouver notre auditeur en ligne, Maître Mopila, qui nous appelle de Guémena. Maître Mopila, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité, M. Manuel. Avant que je puisse intervenir par rapport au thème, j'ouvre une parenthèse ici à Guémena. C'est depuis 8h du matin que nous sommes confinés. Raison de la pluie, quoi. La pluie, c'est depuis 8h du matin ici à Guémena. En fait, les intervenants qui m'ont précédé, ils ont vidé toutes mes questions, mes pensées, mes propositions par rapport au thème. Mais Marcel, laisse-moi vous dire que non. Pendant cette période, j'ai commencé vraiment à raisonner. Et je dis, les plus malheureux pendant cette période sont nos dirigeants du monde et nos dirigeants au niveau central et au niveau provincial. Quand je vois M. Trump à la télévision, je vois Macron, je vois le chef d'État, son Excellence Félix Tshisekedi d'y parler à la télévision, vraiment j'ai pitié de ces dirigeants-là. Parce que nous, population, nous disions que non, nous sommes éloignés de la population, nous sommes stressés. Mais je me dis, ils sont aussi des humains, nos dirigeants. Comment ils sont stressés parce qu'eux aussi, ils sont éloignés de la population. Je prends le cas de notre pays, le chef de l'État Tshisekedi pense aussi à ces populations qui sont en France, qui sont ici à Guémena. Mon gouverneur, par exemple, le Sidoubangui, pense à sa population qui sont aussi à Kinshasa. Donc, et aussi les dirigeants, ils sont aussi éloignés de leur population, ils sont aussi éloignés de leur famille qui ne sont pas biologiques. Monsieur Marcel, j'ai entendu les gens parler, j'ai dit ceci, mais j'ai quelques petites questions à poser à l'invité. Quand nous sommes stressés, quand nous sommes éloignés de nos populations, de nos familles, pardon, maintenant, quel est le conseil qu'il peut donner à nos dirigeants? Parce qu'ils sont aussi stressés. Quelles attitudes ils peuvent aussi adopter durant cette période? Parce que ici à Guémena, je vous dis, chaque matin, le gouverneur est taquillé par des différentes questions à la population. Le chef d'État est taquillé. Il faut prendre les avions, retourner les gens à Kinshasa, prendre les avions, faire ceci. Donc, est-ce que ces dirigeants-là dorment normalement? Donc, l'invité peut nous dire comment les chefs d'État, nos dirigeants peuvent se comporter pendant cette période sur les plans psychologiques. Et j'ai attendu l'autre parler, son épouse à Kinshasa, comment elle s'est fait tenir. Bon, ils ont peut-être sûrement pendant leur mariage de mère et le pire. Voilà le pire qui est arrivé. Ils doivent passer par leur serment, mettre ça devant et ils se comportent par leur serment. Et je pense aussi mon frère de Mbandaka qui a dit après le confinement qu'on puisse mettre un avion et rapatrier les gens. Je pense que c'est une bonne proposition, mais c'est problématique parce que tout le monde risquera de monter de l'avion et revenir pendant ce parce qu'ils n'ont pas de billets. Voilà pourquoi je demande à l'invité de nous dire comment les chefs d'État vont se comporter, parce que ce sont les plus stressés du monde, nos chefs d'État. Merci.
Merci, Maître Mopila, depuis Guémena. Pascal, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Pascal.
Bonjour.
On s'écoute, Pascal, quelle est votre préoccupation par rapport à ces sujets, vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress?
Oui, en tant que célibataire, j'ai l'habitude, je suis enseignant, tel que vous me suivez, je suis enseignant. Mais, donc j'enseigne souvent aux écoles privées. Comme nous n'avons pas les matricules, jusqu'alors, comme ça ne fonctionne pas, les écoles ne fonctionnent pas encore. On va faire quoi avec cette difficulté? Chez nous, c'est à Kanang. Je suis ici. Donc, je suis à la maison d'autrui. On me tracasse comment payer la maison, comment payer le courant et à manger même mon temps. Je me suis entraîné à faire d'autres travaux et que je ne savais pas. Je me suis rendu vendeur des unités. Pour cela, j'ai encore des difficultés. Comment faire avec cette difficulté? Je cherche là où m'en sortir, je ne vois pas. Qu'est-ce que notre invité peut nous dire pour ça et me donner encore un peu d'explication?
Voilà, ça c'est un cas particulier hein, par rapport à votre statut d'enseignant. Nous parlons de l'éloignement vis-à-vis de sa famille en période de confinement. Mais l'invité pourra vous donner un conseil hein, parce que ça vous dérange. Merci Pascal d'avoir appelé de Lubumbashi. Justin Kalabia, vous êtes à Roux. Bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Marcel Ngombomala. Merci à tous les auditeurs, auditrices de la radio Capi. En tout cas, puis très intéressant à la thématique du jour. Et par rapport à ce sujet, M. Marcel, ici à Arou, nous avions aussi un cas. Hein, un cas, il y avait aussi un foyer, un nouveau couple qui se sont mariés. Alors, le mari était travailleur, il travaillait dans une compagnie de transport X. Alors, une semaine après, M. le président a décrété que non. On puisse suspendre toutes les activités, y compris aussi les compagnies de transport. Alors, donc, on manque même les savons parce que on dépendait de ça, monsieur. Donc, c'était le travail de son mari. Alors, je demande à notre invité quelle sera maintenant la solution que ces mariages parce que les mariages, c'est l'argent. Si on n'a pas l'argent, on ne pouvait pas aussi s'en sortir. Alors, ma question est celle-ci, quelle sera maintenant la solution par rapport à ces couples? Et la dernière question, monsieur, il y a aussi encore une même situation qui nous est arrivée. Il y a un nouveau aussi couple, donc il y avait autre couple qui s'est marié. Donc lui, le mari travaillait au niveau des bars. Alors, tout ça, donc, les mariages,
ils se sont divorcés, on dit que non, là, le mari n'a pas d'argent, alors je demande à l'inviter. Maintenant, pour décanter toute cette situation qui nous arrive ici, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Marcel? Merci.
Et merci à vous aussi, Justin Kalabia, d'avoir appelé de Harou. On revient à notre invité, Emmanuel Bourama, qui est éducateur formateur au service central d'éducation à la vie. Vous avez suivi tour à tour Maître Mopila. Lui, ses soucis plus de dirigeants en cette période des confinements. Il dit que ce sont aussi des êtres humains. Ils doivent se trouver aussi dans un état de stress. Qu'est-ce que vous pensez leur dire? Il y a Pascal qui est enseignant, qui a évoqué les difficultés financières. Vous avez également parlé de Justin Harou, qui lui évoque également des difficultés financières. Alors, qu'est-ce que vous réagissez d'abord par rapport à Maître Mopila qui a pensé aux dirigeants qui, d'après lui, doivent aussi se trouver dans un état psychologique pas facile vis-à-vis de tout ce que la population rencontre comme difficulté par rapport au Covid-19?
Oui, merci beaucoup. C'est vrai, le problème, il est vraiment complexe. Il est complexe parce qu'il tient à beaucoup de choses, mais s'agissant des dirigeants, je dois d'abord dire que nous avons un problème très très sérieux par rapport à notre pays, parce que nous sommes dans un contexte où nous sommes dans une anomie sociale terrible, si bien que les dirigeants, avec toute leur bonne volonté, ils n'ont pas les moyens pour aider la population qui, normalement, doit compter sur eux. Nous sommes dans un pays où il y a des difficultés énormes. C'est depuis plusieurs années que la population congolaise est en train de subir, de vivre rien que de l'espoir, en espérant que le lendemain sera meilleur. Et il y a des difficultés énormes. Si nous suivons même les informations, on se rend compte que de plus en plus, il faut revoir les budgets, il faut rétrécir le train de vie d'un certain nombre de personnes. Donc, les moyens que nous pouvons attendre, parce que nous voyons dans d'autres pays où la vie est normale, la vie, le système fonctionne très très bien, comment la prise en charge est faite, ou même les démunis. On est en train de penser aux démunis qui sont en train d'avoir des kits pour la survie et des mécanismes qui sont mis en place pour aider justement la population à maintenir un certain niveau de vie par rapport à ce confinement. Donc, je pense que c'est vrai, les dirigeants, ils peuvent être de bonne foi, mais je sais que nous sommes dans une dynamique sociale terrible qui n'a pas assez de moyens pour que les choses puissent... Donc, si nous comptons vraiment de ce côté-là, nous serons vraiment très, très déçus, parce qu'effectivement, je ne vois pas comment les moyens seront trouvés aujourd'hui pour aider la population à vivre décemment. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous attendons des dirigeants. Et nous espérons qu'ils soient en train de mettre tout en œuvre pour, tant soit peu, mais essayer de sauver cette population qui, finalement, est réduite à elle-même. Et aussi, comme nous sommes dans les secteurs non formels, les gens sont en train de se débrouiller comme ils peuvent se débrouiller, mais je crois que c'est aussi une occasion pour nous de tirer des leçons, comme nous avons dit, de renforcer la solidarité, parce que je ne vois pas comment nous pouvons nous sortir de cette situation en dehors de la solidarité familiale, la solidarité avec des amis et tout, pour que nous puissions partager les peu que chacun peut trouver pour que nous puissions essayer de survivre, parce qu'il s'agit de survivre, franchement. Les gens n'ont pas assez de moyens, les gens ont des difficultés, et la seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est cette solidarité. Et je pense que, de plus en plus, même quand on regarde et on va dans les shops par-ci, par-là, on va trouver que celui qui a 5000 francs, il a envoyé à celui-là 2000 francs, il a envoyé à celui-là 1000 francs, celui qui a un peu de riz, il regarde autour de lui, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent... Donc, je crois que nous devrions renforcer, je crois, cette solidarité, d'abord entre nous, en attendant que les dirigeants qui ont le devoir de prendre soin des communautés, qui puissent agir comme nous l'attendons.
Alors, j'imagine, c'est la réponse aussi que vous donnez à ces deux intervenants qui n'ont pas évoqué les problèmes des confinements, mais plutôt des difficultés financières auxquelles ils sont confrontés. Vous pensez, il faut être positif et puis compter sur la solidarité. J'imagine, c'est ce qu'ils peuvent aussi bien faire.
Oui, je crois que c'est ça. Je pense que c'est, on ne peut compter que sur ça.
Oui.
Et je crois que c'est aussi, comme nous avons dit, toutes les occasions sont bonnes pour que nous puissions améliorer la qualité de notre vie, pour que nous puissions trouver des mécanismes qui nous permettent de vivre, de survivre, mais aussi en continuant à demander à ceux qui ont le devoir d'aider la communauté, notamment les dirigeants, à mettre en place quand même un système pour que le Congolais puisse vivre dans décemment, parce qu'il n'y a pas de raison vraiment pour que le Congo, nous puissions vivre. Ça fait 60 ans que nous avons eu l'indépendance,
voilà,
et que je pense que c'est l'occasion vraiment pour que nous puissions également mettre en place des mécanismes pour que nous puissions faire face à toutes ces différentes difficultés, à toutes ces imprévus qui arrivent et qui nous mettent en questionnement permanent. Quoi.
Voilà, merci
beaucoup. C'est aussi l'occasion de penser à tout ça.
Merci beaucoup Emmanuel Bourama. Nous rappelons que vous êtes éducateur et formateur au service central éducation à la vie. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder cette question sur vivre loin de sa famille en période de confinement. Comment gérer le stress? Merci, au revoir.
Merci. Au plaisir. À la prochaine.
Voilà, nous allons continuer avec ces sujets sur vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress avec notre invité qui est en ligne. Il s'agit de Joachim Mukaweboel, il est psychopathologue. Joachim Mukaweboel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
Voilà, vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress. Vous êtes psychopathologue, vous convenez avec moi, avec les autres experts qui vont procéder que c'est une situation pas facile.
Oui, donc vivre le confinement en famille, c'est une situation qui n'est pas facile. Mais je dois quand même dire quelque chose, bien comprendre que le confinement crée deux situations. D'une part, le confinement crée les opportunités et, au sein de la famille. Et puis ça peut aussi créer des occasions, n'est-ce pas, où les familles peuvent encore essayer d'approfondir certaines règles, n'est-ce pas, ou certaines routines. Les opportunités que nous pouvons observer au niveau des familles, on peut remarquer ça au niveau à trois niveaux. Le confinement crée les opportunités au niveau des parents. Et ça crée également l'opportunité au niveau des enfants. Mais tout en étant en Afrique, le confinement crée des opportunités au niveau des autres membres de la famille. Vous voyez, prenons quelles sont les opportunités que nous pouvons observer au niveau des parents. Avec confinement, si vraiment le confinement est réel et que les parents se confinent normalement, on va constater des situations qui vont se passer au niveau du couple. Il y a des couples qui longtemps ne se voyaient pas, n'avaient pas l'occasion de pouvoir rester ensemble, marcher, manger ensemble et vivre la vie familiale avec les enfants de manière régulière. On constate que ça crée maintenant une opportunité où on constate que papa et maman sont ensemble et se regardent, s'observent. Et dans la majorité des cas, qu'est-ce qu'on constate? On constate cette joie, n'est-ce pas, qui remonte au niveau de la femme généralement, qui dit, ben, en fait, j'ai mon mari que je ne voyais pas, et ainsi de suite. Ben, maintenant, il y a encore l'autre face. La face B de l'opportunité, c'est que les deux partenaires se découvrent mutuellement au niveau affectif, ils se découvrent mutuellement, au niveau de la gestion des enfants, ils se découvrent mutuellement, même au niveau de la gestion de l'argent, le couple se découvre. Maintenant, la face qui est négative, c'est la face où on peut voir le fait qu'ils se découvrent, la violence peut naître. Voilà, la violence peut naître, l'incompréhension peut naître parce que l'un ou l'autre allait, n'est-ce pas, se déverser ailleurs, de verser son agressivité ailleurs, ainsi de suite. Maintenant, le fait qu'ils sont ensemble, ce comportement-là est observé maintenant au niveau de la famille, au niveau du couple. Voilà, ça c'est d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on constate? Surtout pour le couple dont papa, maman ne vivent plus ensemble, il y a séparation d'enfants, Là, on peut observer encore quelque chose. Je prends l'exemple d'un couple qui a été séparé. Les enfants sont gérés par un partenaire. Généralement, c'est la mère qui gère les enfants. On peut maintenant assister pendant ce confinement, n'est-ce pas, au renforcement de ce que j'appelle l'aliénation parentale, le syndrome d'aliénation parentale. C'est-à-dire quoi? Le partenaire qui vit avec l'enfant ou avec les enfants va essayer de raconter beaucoup de choses sur le parent absent. Et en racontant beaucoup de choses sur le parent absent, bien, à un certain moment, lorsqu'ils étaient séparés, en fait, lorsque les enfants sortaient de temps en temps, la mère peut-être n'avait pas beaucoup d'occasion de raconter le mal du père qui est absent. Et pendant le confinement, en tout cas, le renforcement des syndromes d'aliénation parentale peut être encore beaucoup plus visible. Mais et cela a toujours l'impact sur les autres. Le confinement a encore l'impact sur les autres. J'ai toujours parlé aux étudiants, et même quand je fais la thérapie des couples et familles, j'ai toujours dit une chose. En Afrique, lorsqu'il y a un couple, nous vivons, il y a papa, maman et enfant, mais il y a la présence des autres. Oui. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion du couple? Les problèmes qui sont souvent générés au niveau du couple, c'est aussi la présence des autres. Le couple gère un neveu, gère une nièce, gère une tante, gère une grand-mère. Alors que la femme, par exemple, a besoin de vivre vraiment son mariage. Oui, pendant ce moment de confinement, la présence des autres gêne. La présence du petit frère, la présence des nièces, gêne à la femme de pouvoir, n'est-ce pas, se mouvoir, se comporter normalement au sein de... C'est un moment où la femme aimerait finalement vivre vraiment son mariage.
Voilà, Joachim, aussi, oui, Joachim, on revient à vous, donc restez toujours en ligne. On va d'abord nous rendre un moment à Kindu, dans le Maniema, où certaines personnes vivent aussi les confinements loin de leur famille. C'est le cas de ce monsieur, il s'appelle Pierre Kamwabu Mbuyamba, qui est connu là-bas sous les sobriquets de Pierre Kam. Il vit actuellement à Kindu, dans la province du Maniema, loin de sa famille, composée de 6 enfants, dont 3 filles, 5 garçons. Et ils sont, ces 3 filles et 3 garçons sont avec leur maman. Et on l'écoute, il est au micro de notre confrère Mathieu Ilunga.
Je m'appelle Monsieur Piekam Kamwabu. Je suis un nouvel habitant de Kindu. Je ne suis pas de Kindu, je viens de Kinshasa pour des raisons professionnelles. Mais hanté, je viens de loin, je vis ici seul, je n'ai pas ma famille avec moi. Donc je vis seul d'ici.
Je m'imagine comme sur le confinement dont on est en train de parler, peut-être ça peut avoir... Pour les gens qui vivent un peu loin de leur famille, dont les familles sont absentes, ils peuvent avoir une dose de souffrance à la peau.
Je sais que la pandémie COVID-19, c'est une pandémie qui est en train de faire beaucoup de victimes dans le monde entier. Et notre pays n'en est pas épargné. Lorsque le gouvernement de la République démocratique du Congo prend des dispositions pour mettre les gens en confinement, c'est d'abord un à notre avantage. Pourquoi ? Il faut sauver des vies humaines. Ça, c'est un. Personne ne peut rejeter vraiment cette disposition. Pratiquement sociale, c'est humanitaire, parce qu'on doit penser aux hommes. On ne peut pas les livrer comme ça à une pandémie qui est en train de faire des morts partout, quels que soient certains points qui lèsent les uns ou les autres.
Monsieur Pierre Kam, voulez-vous dire que c'est un service que le gouvernement rend à la population ou bien à des familles qui sont aussi séparées?
Je dirais que c'est une réalité. Parce que vous l'avez tantôt dit, le gouvernement a pris des dispositions responsables. On doit voir grand, on doit sauver les gens, on doit mettre les gens à l'abri. Donc ça, c'est un fait. Mais pour ce qui est de désavantages, nous qui sommes loin de nos familles, ce que nous apprenons loin de nos familles, vous savez que nos familles, ce sont des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parfois, on vit au quotidien, les gens doivent faire le marché tous les jours. On n'a toujours pas de provisions à la maison. Peut-être on peut avoir une partie des provisions. Et le reste, on fait le marché pratiquement 2 jours après ou 3 jours après. Ou chaque jour, il y a des familles qui le font chaque jour. Alors, le confinement n'est pas vraiment facile à être géré par nos familles pauvres. Ça, c'est vrai. Même ceux qui qui peuvent se dire qu'ils ont des moyens, ils en ont eu beaucoup de difficultés parce que j'ai des informations de Kinshasa. Il y a des familles qui sortent même, qui se disent à la guerre comme à la guerre, on y va comme ça. Ils vont marcher, ils rentrent, ils se disent mais si on est cloué là, on va mourir de faim. Autant aller chercher. C'est ça un peu le désavantage des confinements.
Mais vous personnellement, l'absence de la famille, séparer de la famille, pendant que vous sentez ce qui se passe.
La séparation de la famille, pendant la période de confinement, c'est vrai, mais ce n'est pas une mince affaire à gérer en tant que responsable. Parce que je suis marié, père de 6 enfants, dont 3 filles, 3 garçons. Ce n'est pas facile. Avec le confinement, mon épouse seule avec ses enfants-là, elle en souffre. Parce que par moments, je me dis, comment ils vont avoir de quoi manger? Une petite maigre pitance journalière. J'achète du riz ici, j'envoie par serveur.
Voilà, merci à Mathieu Lunga pour cet entretien avec ce monsieur qui vit loin de sa famille. Il est confiné à Kindu. Joachim, vous avez suivi le témoignage de ce monsieur. Comment réagissez-vous? Et puis, si vous pouvez aussi conclure en quelques mots par rapport à cette situation de confinement loin de ses proches, loin de sa famille.
Oui, oui. Bon, ce que monsieur est en train de décrire, c'est une situation normale. Monsieur est en train, n'est-ce pas, de faire allusion à la manière dont il vivait avec sa famille. Maintenant, il est loin de sa famille. Ça, c'est vraiment l'angoisse. Il vit une situation terrible. Donc, il est stressé, il est angoissé, il ne comprend pas. Il s'imagine même comment ses enfants sont en train de vivre. C'est vrai, il y a un impact. Il y aura un impact considérable de ce confinement dans sa vie, dans sa propre vie. Ça c'est vrai. Mais autre chose que j'aimerais ajouter ici, vous savez que ce confinement vient avec beaucoup de choses. Il y a l'avant-confinement, comment nous vivions, comment nous menions nos vies avant-confinement. Chacun avait un mode de vie, n'est-ce pas, avant-confinement. Et le mode de vie auquel je fais allusion, que ce soit au niveau microsystème ou macrosystème, hein, chacun, donc les familles, même le gouvernement avait une manière de faire. Maintenant, pendant ce confinement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'acquis que auxquels nous devons tenir compte. Le gouvernement ne peut pas rester, n'est-ce pas, aveugle, ne peut pas rester, n'est-ce pas, un peu sourd de ce qui se passe pendant le confinement. Le gouvernement doit être vraiment préoccupé à pouvoir s'intéresser aux acquis du confinement, dans tous les niveaux, hein, les acquis du confinement, dans tous les niveaux. Maintenant, ces acquis-là, on devra bien ramener ça après le confinement. Comment nous allons gérer les acquis après confinement? Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des familles, au niveau du gouvernement, au niveau de la gestion, même au niveau des prisons. Oui, au niveau des prisons, au niveau des écoles, les universités maintenant. Est-ce que les universités seront-elles gérées de la même manière qu'elles ont été gérées après le confinement? Nous avons un exemple éloquent. Ailleurs, les étudiants continuent à suivre les cours en ligne. Quel était notre système, notre manière de faire fonctionner le système éducatif au Congo avant le confinement? Qu'est-ce que nous avons constaté pendant le confinement et comment nous allons faire après confinement pour la gestion des écoles, que ce soit les écoles primaires, secondaires et universitaires? Ça, c'était très important. Au niveau des entreprises, comment nous allons travailler, n'est-ce pas? Pour les banques, il y a un système qu'on appelle Discovery. Je pense que les banquiers qui m'entendent savent qu'on ne peut pas gérer une banque tout en mettant, n'est-ce pas, tout le système en ville. Maintenant, vous avez constaté que lorsqu'on a confiné la Gombe, ils étaient obligés de se délocaliser pour venir vers les communes qui n'étaient pas... voilà. Donc ça, c'est un système très, très important au niveau des familles. Comment gérer une famille? Avant, comment les familles étaient gérées? Les enfants étaient gérés? Pendant le confinement, quels sont les acquis les acquis du confinement au niveau de la gestion des familles, des couples, et qu'est-ce qu'on fera après?
Oui, voilà. Donc, je
voulais te donner encore un autre exemple.
Rapidement, oui.
Vous voyez, on a pris beaucoup de mesures, au niveau des funérailles. Comment, s'il y a un décès, le décès, on ne peut plus organiser les deuils dans des salles et tout ça, tout doit partir. Au niveau, n'est-ce pas, de tout ce qui est bruit, bruit, n'est-ce pas, avec les bars, avec les églises. Hein, donc, alors, maintenant, comment cela sera-t-il géré après confinement? Est-ce qu'il y a eu un effet positif ou négatif? Donc, je pense que toutes ces choses-là sont des choses auxquelles le gouvernement doit tenir compte. Et la gestion de ces stress-là, le stress, il faudrait bien qu'on voit, le stress post-traumatique généré par le confinement.
Donc Joachim, on retient, il faut tirer toutes les leçons de cette pandémie sur tous les secteurs de la vie nationale. Merci beaucoup Joachim Mouka-Webel. Nous rappelons que vous êtes psychopathologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce sujet. Vivre loin de sa famille en période de confinement, comment gérer le stress? Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.